Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL Midi, effectivement, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le pape qui accepte la démission de l'archevêque de Paris, le casse-tête de la troisième dose, et puis YouTube qui suspend la diffusion du clip d'Éric Zemmour pour les moins de 18 ans.
Deux sujets à partir de 12h40. Le tribunal médiatique, hier en Conseil des ministres, Emmanuel Macron s'est inquiété de la justice dans les médias. Alors que faire? On sera avec Louis-Marie Aureau, qui est journaliste au Canard Enchaîné. Puis, je l'ai dit, un témoignage de Charles, 8 ans, qui est le nouveau visage de cette campagne d'appel aux dons contre les leucémies.
Notre question du jour sur RTL.fr, variant Omicron. Êtes-vous prêt à réduire vos contacts avant Noël? C'était le conseil hier soir sur RTL du professeur Fontanet. Eh bien, vous dites oui à 42%, non à 52%. La météo du jour, avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Ça va mieux à l'ouest?
Oui, alors c'est pas du grand beau, mais on retrouve des éclaircies, un temps plus sec, sauf entre la Bretagne et le centre où il y a encore quelques averses. Un beau soleil près de la Méditerranée, mais avec du vent. Et des Pyrénées au massif central jusqu'au nord-est, là c'est un ciel de traîne entre nuages, éclaircies, averses et de la neige à basse altitude, le tout sous une ambiance plus froide de 3 à 9 degrés globalement et de 11 à 14 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et on va donc commencer avec le Covid et ses premiers cas, ce premier cas de variant Omicron confirmé ce matin en métropole, en Seine-et-Marne précisément. Il s'agit d'un homme non vacciné, âgé d'une cinquantaine d'années, de retour d'un voyage au Nigeria. Il a été dépisté à sa descente d'avion et ne présentait aucun symptôme. Son entourage a été placé à l'isolement. Du côté de la vaccination, c'est toujours ce midi bien compliqué de décrocher un rendez-vous pour la troisième dose. Vous en avez peut-être fait l'expérience, Olivier Véran en tout cas, premier du mieux pour les prochains jours. En attendant, RTL vous accompagne. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Premier point, quand faire ce fameux rappel?
Alors c'est vrai que vous le disiez, ça peut virer au casse-tête. Pour vous aider, donc, l'assurance maladie lance un simulateur en ligne qu'RTL vous dévoile en avant-première. Il suffit d'aller sur amélie.fr, de cliquer sur rappel vaccin Covid et là vous répondez à quelques questions très simples détaillées par Thomas Fatome, directeur de la CNAM.
Quel est votre âge? Quel vaccin vous avez utilisé? Et à quelle date? Et à partir de là, on peut calculer la date d'éligibilité du rappel et puis la date à laquelle votre passe sanitaire va être désactivé si vous ne faites pas ce rappel.
Bon alors, ça a l'air très simple. Autre casse-tête, comment trouver un rendez-vous? Là, c'est compliqué.
Alors, on peut dire que ça se bouscule au portillon. Hier, 582 000 rendez-vous se sont arrachés sur la plateforme Doctolib. En ville, les professionnels de santé ont commandé 2 700 000 doses pour la seule journée de lundi, doses réceptionnées à partir d'aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à passer chez votre pharmacien. Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant, des sages-femmes, des infirmières, des laboratoires d'analyse médicale qui vaccinent également sans oublier la médecine du travail. Les centres, 1182 au total, sont aussi mobilisés avec davantage de lignes de vaccination. L'ouverture de 300 centres supplémentaires est prévue dans les jours qui viennent. Bon courage.
Science, donc, c'est le maître mot. Merci beaucoup, Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. On en vient à cette décision tombée il y a une demi-heure maintenant, une semaine après avoir remis sa charge entre les mains du pape. Monseigneur Aupetit n'est donc plus archevêque de Paris. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Le pape a accepté sa démission.
Oui, le nonce, l'ambassadeur du pape à Paris, a transmis l'information. Démission acceptée, effet immédiat. C'est à la suite d'articles de presse parus la semaine dernière que Michel Aupetit s'était adressé directement au pape François, article qui mettait en cause sa gestion du diocèse jugé autoritaire et qui évoquait une liaison intime avec une femme en 2012. Dans un communiqué il y a quelques minutes, Michel Aupetit répète que s'il a remis sa charge au pape, c'était pour préserver le diocèse de Paris de la division que provoque toujours, dit-il, la suspicion et la perte de confiance. Il écrit aussi qu'il a été fortement troublé par les attaques dont il a fait l'objet, mais qu'il a aujourd'hui le cœur en paix. Il prie pour ceux qui lui ont peut-être souhaité du mal et demande pardon à ceux qu'il a pu blesser. Le temps qu'un nouvel archevêque soit nommé à Paris, le pape a choisi Georges Pontier, l'ancien archevêque de Marseille, comme administrateur apostolique pour gérer le diocèse.
Explication signée Marie Guerrier pour RTL.
Et en attendant la justice divine, c'est un exemple de justice médiatique peut-être, et ce sera tout à l'heure un de nos thèmes vers 12h40. 48 heures après la publication de l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour, YouTube a décidé de retirer la vidéo.
Oui, retirer, en tout cas de l'intégralité. d'interdire pour les moins de 18 ans, et ce, en raison, je cite, du contenu jugé trop violent. Se pose aussi, et ça on en parle depuis plusieurs jours, la question des droits d'image. Laetitia Hallyday l'a annoncé ce matin sur RTL, elle a décidé de porter plainte.
C'est pas envisageable d'utiliser l'image d'un artiste à des fins politiques, d'utiliser l'image de Johnny à des fins politiques dans une campagne électorale. Quelqu'un qui n'est déjà plus là, c'est une propagande qui n'aurait pas plu à Johnny. Il n'aurait pas aimé ça. J'ai demandé à mon avocat d'entamer des poursuites.
Ça vous a choqué ?
Oui, j'étais choquée. Je pense que je ne suis pas la seule. Il fallait le dénoncer et respecter le droit à l'image et dénoncer cet abus.
Laetitia Hallyday au micro RTL de Steven Bellery. Les LR, eux, connaîtront le nom de leurs deux finalistes pour la présidentielle dans moins de 2 heures. Clôture du scrutin tout à l'heure à 14h, scrutin en ligne. Les résultats devraient être donnés dans la foulée. Et eux, eh bien, eux ne votent pas, ils ne s'abstiennent pas non plus. RTL se penche aujourd'hui sur les non-inscrits. 4,5 millions de Français qui n'apparaissent pas sur les listes électorales. C'est le résultat de l'enquête BVA pour RTL et Orange. Bonjour Vincent Durosier.
Bonjour.
Qui sont ces non-inscrits?
Alors, des jeunes, la moitié à moins de 35 ans, des Français issus des classes populaires, peu diplômés, peu actifs et en majorité des femmes, voilà pour le portrait robot. Près d'un Français sur 10 n'a pas de carte d'électeur aujourd'hui. Désintérêt, flemme, défiance, il y a un peu tous les profils et Valentin Boisset a sillonné l'Île-de-France à leur rencontre.
Depuis mes 18 ans, j'ai pas fait un vote. Ça me va très bien, de toute façon je n'irai pas, c'est rien qui me l'envoie, c'est quasi du papier pour rien. Je fais ma vie, je suis dans ma bulle, nos parents ils ont voté et c'est de pire en pire.
Je sais pas pour qui voter parce que rien ne me correspond en fait.
Je m'intéresse pas à la politique, j'ai jamais voté. C'est un peu comme si je faisais pas partie du reste de la société.
Si j'étais dans un autre pays ou avec des politiques, des gens violents, je voterais peut-être pour lutter contre ça. Mais en France, on n'a pas trop ce problème.
Rassemblement National, En Marche, La France Insoumise, ils ne se sentent proches d'aucun parti, mais la moitié d'entre eux assurent soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Enfin, l'approche de la présidentielle ne change pas grand-chose. À peine un quart d'entre eux se dit certain d'aller s'inscrire sur les listes électorales.
Vincent Derosier du service politique d'RTL.
Faudrait-il rendre le vote obligatoire ? On posera la question tout à l'heure au 32-10.
Retour en attendant sur ce cold case, comme on les appelle, cette histoire non élucidée. Le meurtre de Nadège, 17 ans, tué sur le chemin de l'école, c'était en 1994. 27 ans après les faits, l'ADN a parlé. Un homme de 54 ans a été interpellé. Tout est parti, Samuel Goldschmidt, d'une affaire de violence conjugale.
C'est une gifle, en effet, en août dernier, qui a déclenché la résolution de cette affaire. Une gifle d'un père de famille de 54 ans, de Bar-le-Duc, à sa compagne parce qu'elle fumait dans la voiture. La compagne alerte la police, mais elle ne souhaite pas porter plainte. Elle explique qu'en 5 ans de vie commune, il ne s'est jamais montré violent. Mais à Bar-le-Duc, entre le parquet et la police, on s'accorde pour une extrême vigilance sur toutes les histoires de violence familiale. Et sur instruction du procureur, l'individu est inscrit au fichier national des empreintes génétiques, comme le permet la loi. Le prélèvement est fait au commissariat de Bar-le-Duc, le temps que toutes les démarches techniques aboutissent, et c'est en début de semaine que la nouvelle explose. Le profil ADN du gifleur de Bar-le-Duc est celui qui a été prélevé sur le cadavre de Nadège Desnois, cette lycéenne de 17 ans morte de 8 coups de couteau en mai 1994. L'homme a été interpellé en Bretagne où il était en déplacement. Il avait été condamné lourdement en 2002 pour viol. Il devait pointer une fois par an au commissariat de son lieu de domicile. C'est aussi en raison de ce profil particulier que les policiers de Bar-le-Duc ont averti le parquet après la gifle du mois d'août.
Samuel Goldschmidt en direct de Bar-le-Duc pour RTL.
Et nous ouvrons à présent une page sport, J-1000 avant le coup d'envoi des Jeux Paralympiques de Paris.
Ce sera le 28 août 2024. 1000 jours donc, et 1000 choses à faire encore, Jean-Michel Rascol.
Oui, Paris 2024 doit par exemple vite évoluer en matière de transport. Seulement 9 des 303 stations du métro parisien sont aujourd'hui accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Londres avait profité des Jeux de 2012 pour transformer son réseau. La RATP promet 21 nouvelles stations accessibles d'ici 2024. Mais Paris a aussi 1000 jours pour faire évoluer les mentalités. Il existe, et on en parle peu, une censure de la part des familles réticente, comme certains médecins, à voir des personnes handicapées à pratiquer un sport. Peur de l'accident, de chute ou de coup qui augmenterait les contraintes d'une organisation de vie déjà pas simple au quotidien. 1000 jours encore pour aguerrir des athlètes. À Tokyo, la France, 14e nation au bilan des médailles, était absente dans 75% des disciplines. Et puis il faut aussi s'adapter à de nouveaux règlements. Les Jeux Paralympiques de Paris feront par exemple la distinction pour la première fois entre les malvoyants et les non-voyants. Pour que la performance soit juste, il faut qu'elle soit équitable.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Et puis on parlait en début de semaine du concours Miss France. Jean-Pierre Pernaut nous annonçait ici même sur RTL qu'il serait président du jury cette année. Et bien une autre compétition avait lieu hier à Marseille. L'élection, Pascal, écoutez bien, de Miss Cagole. Un concours qui se présente comme l'anti-Miss France. C'est ça, Hugo Hamelin ?
Oui, c'est ça. Le concours de Miss Cagole, c'était une tradition à Marseille dans les années 90. Il est donc remis au goût du jour. Porte-jartelle rose, décolleté panthère et désormais discours engagé. C'était hier soir dans le quartier de la Plaine et c'est Nalali Lune qui a remporté la couronne. Alors ici, pas de critères physiques, vous l'avez dit, c'est l'anti-concours Miss France, comme l'explique Lisa, l'organisatrice.
On en a marre des femmes grandes, minces et silencieuses. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est l'authenticité, la détermination, et les cagoles sont très fortes pour. Il y avait beaucoup d'extravagance dans les tenues, vraiment aucune limite de couleur, de paillettes, voilà, ça débordait de partout, même le maquillage. Et voilà, c'est tout simplement des femmes qu'on voit en fait et qui dérangent parce que justement elles sont vues et qu'elles prennent la place et qu'elles n'ont pas peur d'être ce qu'elles sont. On a pu vraiment avoir une dose de liberté qui a fait du bien à tout le monde.
Les fossiles et le rouge à lèvres qui débordent, Miss Cagole 2021, on est donc passé du cliché à la revendication féministe.
Un peu d'humour, un peu de dérision, ça fait du bien. Je suis même étonné que ça existe encore, pour tout vous dire. Mais c'est quoi précisément une cagole ?
Alors c'est une femme à la féminité exacerbée, c'est en tout cas la définition du dictionnaire. Je vais vous donner quelques petits éléments, le maquillage, les fossiles, le porte-jartel rose, voilà, bon, c'est comme vous voulez, mais c'est surtout une grande bouche, voilà, une grande bouche à la marseillaise.
Bah écoutez, merci Hugo.
Une femme avec de la personnalité.
Merci beaucoup. Bah, toutes les femmes avec de la personnalité ne sont pas non plus des cagoles, j'imagine.
Non, on peut lancer le débat aussi. Allez.
Mais on pourra effectivement parler. Est-ce que vous aimez les cagoles ? Pourquoi pas ?
Non.
32-10, mais pourquoi ?
Bon,
une question pour les auditeurs, auditrices. Est-ce que vous avez envie de réagir ? Toutes les questions sont possibles. On va en revanche parler de l'affaire Hulot et du tribunal médiatique. Vous savez hier ce qu'a dit Emmanuel Macron, la justice ne se fait pas dans les médias. C'est un sujet qui n'est pas facile. Justice et médias forment un couple... J'ai envie de dire un couple infernal. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Que dit le président ? Il faut que la parole des femmes se libère. Et c'est très bien qu'elle se libère. Avant d'ajouter une nuance de taille. Mais la justice, dit Emmanuel Macron, la justice ne se rend pas dans les tribunaux médiatiques.
La justice ne se rend pas dans les tribunaux médiatiques. L'expression tribunal médiatique revient régulièrement dans le débat public. L'affaire Hulot a récemment relancé la question. On vient de l'entendre encore avec ces mots d'Emmanuel Macron, raconté par William Galidbert. C'était en Conseil des ministres hier. Alors les médias devraient-ils éviter certains sujets ? Peut-on enquêter sur tout ? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Louis-Marie Aureau.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Canard Enchaîné, vous en avez été le rédacteur en chef et vous êtes notamment à l'origine du premier papier sur ce qu'on a ensuite appelé l'affaire Fillon. Alors j'ai posé le débat de manière volontairement provocatrice, mais cette expression de tribunal médiatique, j'imagine qu'elle vous fait bondir ?
Oui, elle ne me fait pas bondir, mais on sait l'usage qu'en font beaucoup d'hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils supportent assez bien la brosse à reluire médiatique, mais pas trop la critique médiatique. D'abord, une petite parenthèse pour dire que médiatique, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que les médias, ce n'est pas une seule chose, c'est des choses extrêmement différentes. Hein, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est une expression assez agressive, utilisée par les hommes politiques, et par M. Macron tout récemment, pour essayer de tempérer les ardeurs de journalistes qui enquêtent, qui cherchent... La question d'un jugement, c'est de savoir si le jugement est juste ou pas. Le jugement médiatique, s'il s'appuie sur des faits, comme par exemple dans l'affaire Fillon, où tous les faits qui ont été révélés par le Canard, aucun n'a jamais été sérieusement démenti, ben on a bien travaillé. Voilà.
Alors, oui, mais prenons par exemple l'affaire Hulot. Elle est symbolique, il est condamné par l'opinion publique, les témoignages arrivent, l'autre jour c'était sur France 2, aujourd'hui c'est dans Paris Match, et malgré cela, il n'est mis en examen dans aucun des dossiers que rapporte la presse.
Oui, mais la question est de savoir si la presse qui s'intéresse à ces questions, ce qui n'est pas trop le cas du Canard, s'ils ont bien travaillé, si leurs informations sont fiables et s'ils ont aussi donné la parole à l'intéressé. Voilà, c'est ça les critères. Parce qu'après on peut vilipender l'ensemble de la presse dans un seul tonneau, alors que comme je le disais il y a un instant, c'est quand même la presse n'est pas heureusement univoque. Il y a des gens qui travaillent comme des cochons, puis il y en a qui travaillent très bien. Voilà.
Louis-Marie Aureau, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui l'enquête journalistique est très compliquée. Dès lors qu'on rend public un nom, même si effectivement, j'allais dire, c'est une enquête solide avec des faits, des témoignages, etc., on a très vite l'impression, et alors peut-être que les réseaux sociaux y sont pour quelque chose, peut-être que les chaînes d'infos aussi y sont pour quelque chose, ou peut-être que notre société tout court y est pour quelque chose, mais on a souvent vite l'impression que la personne mise en accusation est pointée du doigt et j'allais dire présumée coupable presque.
Oui, si elle est présumée coupable d'une façon univoque et sans vérification, sans travail, sans enquête, c'est en effet fâcheux. Vous savez, depuis plus de 100 ans, le Canard a toujours essayé d'éviter de se poser en petit procureur. On essaye en tout cas. Et on traite les affaires plutôt avec le sourire et avec ironie, plus qu'avec avec des mouvements de manche. Bon, je sais bien qu'il y a d'autres journalistes qui agissent différemment et qui ont tout fait de juger, de condamner.
C'est la difficulté, vous l'avez dit, c'est quand on se trompe. On va prendre deux exemples. Mai 81, je crois que c'est le Canard enchaîné qui révèle l'affaire Papon et combien il était associé à la déportation de près de 1700 juifs. Et ça se terminera devant une cour d'assises. Donc là, vous ne vous êtes pas trompé, c'est vous qui avez sorti cette affaire. On pourrait citer l'affaire Baudis, sortie par Le Monde et Edoui Plenel, qui a été une catastrophe pour Dominique Baudis, parce qu'il était innocent.
Oui, ça c'est, vous avez raison, c'est un exemple absolument épouvantable. Mais la question n'est pas tellement du tribunal médiatique, c'est de la faute journalistique, de la faute de ceux qui travaillent pas bien.
Les deux sont liés, mais c'est vrai que c'est un couple infernal, c'est un couple impossible, justice et médias, mais c'est un couple essentiel, parce qu'autrement c'est une dictature. Sous Staline, il n'y avait pas de problème entre les justices et les médias, il n'y avait pas de médias.
Oui, vous voulez dire que quelquefois, quand un journal écrit une sottise, tout le monde court derrière et la répète. Vous avez raison.
Non, je dis que quand le journal se trompe, c'est terrible, les conséquences sont terribles. On l'a vu également dans l'affaire Grégory.
L'affaire Grégory, c'est autre chose. Là, il n'y avait pas de tribunal médiatique, il y en avait plein, et en plus qui rendait des jugements contradictoires.
Mais c'est un sujet, effectivement, qui n'est pas simple. Mais je ne vois pas comment, sauf à être en dictature, il pourrait en être autrement, si vous me permettez, M. Aureau.
Mais je suis d'accord avec vous. C'est le prix à payer pour la liberté de la presse. C'est très facile d'être pour la liberté de la presse quand tout le monde travaille parfaitement bien. C'est plus difficile quand il y a des gens qui sortent des clous.
Eh bien, merci beaucoup. Le Canard enchaîné existe depuis combien de temps ?
On a fêté notre siècle, nos 100 ans, il y a maintenant, mon Dieu, il y a déjà 3 ans, comme
bon.
Le temps passe.
Bah écoutez, je le lis tous les mercredis, et c'est pas bon signe généralement quand on parle de soi, quand on parle de nous dans le Canard enchaîné. Donc moins on parle de nous, mieux c'est généralement. Merci en tout cas, Monsieur Aureau, et dans une seconde, nous allons être avec Charles, 8 ans, qui est le nouveau visage de la campagne d'appel aux dons contre les leucémies.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je m'appelle Charles. J'ai plusieurs ADN en moi. Le mien et celui de mon donneur dans mes cellules sanguines. Plus tard, je développerai un super pouvoir pour aider les enfants qui ont une maladie du sang. Je cherche. Et toi ? Pour l'instant, moi, je cherche. Et toi, derrière, tu trouves ? Oui, je pourrais trouver, mais il me faut de l'argent pour la recherche. Et pour ça, j'aurais besoin de vous.
Vous avez peut-être croisé sa jolie bouille dans le métro, dans les gares ou à la télévision. Charles est cette année le visage de l'association Laurette Fugain, un super-héros, oui, un super-héros, vous allez voir, de 8 ans, atteint d'une maladie du sang après des mois d'hôpital, dans une chambre stérile, une greffe de moelle osseuse et des séances de chimio. Il est sur pied et il est avec nous dans le studio. Bonjour Charles.
Bonjour.
Merci infiniment, vraiment, d'être là avec ta maman qui est à tes côtés, Fleur. Bonjour Fleur.
Bonjour Amandine.
Charles, comment vas-tu d'abord aujourd'hui ?
Je vais bien. Aujourd'hui, je retourne à l'école avec mes copains et je vois ma maîtresse.
Alors, je disais, tu t'es battue contre une maladie extrêmement grave.
Oui.
Raconte-nous, c'était quoi les derniers mois ?
Les derniers mois,
L'hôpital ?
Oui, l'hôpital. Les derniers mois, en fait, j'ai fait la campagne de sensibilisation avec Laura de Fugain. Quelques jours après, on allait m'enlever mon cathéter central.
Alors voilà, justement, c'est drôle parce que tu vois, je te dis de me raconter tes derniers mois et ce sur quoi tu reviens, c'est cette campagne. C'est fou parce que donc, Fleur, il faut le dire, Charles, il a enduré et vous avez tous enduré un véritable calvaire pendant des mois d'hôpital, d'angoisse, d'inquiétude.
On a vécu un an à l'hôpital, Charles. Hein. Pendant un an, il a été transfusé tous les deux jours en plaquettes, tous les 15 jours en sang. Et puis, il a fini par être greffé parce qu'on a eu la chance d'avoir un donneur compatible en mars. Depuis mars, les choses rentrent doucement dans l'ordre.
J'en avais aussi deux.
Tu avais deux donneurs. Tu as eu beaucoup de chance parce qu'on a une chance sur 1 million d'être compatibles, effectivement.
Et donc, des mois et des mois à combattre tout ça. Et normalement, j'allais dire, quelqu'un de normalement constitué pourrait se dire, moi j'ai plus du tout envie de parler de cette maladie, plus d'hôpital, rien du tout. Toi, tu as choisi de t'engager dans cette campagne. Pourquoi ?
Pour aider les autres enfants qui ont une maladie du sang comme moi, pour qu'il y ait plus de personnes qui donnent leur sang, leurs plaquettes et surtout leur moelle osseuse, pour sauver les enfants qui ont une maladie comme moi.
Et alors, comment on peut faire pour aider justement ?
Ce qu'il faudrait pour aider, c'est donner de l'argent pour la recherche. Parce que là, les médicaments ne sont pas adaptés aux enfants. C'est des médicaments d'adultes. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est donner de l'argent pour que les médicaments soient adaptés pour les enfants.
On t'a donné des médicaments d'adultes.
Oui,
et donc
ça.
Du coup, ça a des effets, j'imagine, très forts.
Oui, les chimiothérapies, elles étaient vraiment très fortes. Ça fait perdre les cheveux. Ça fait parfois, tu as beaucoup mal au ventre. C'est vraiment pas agréable, alors que par exemple, s'il y avait des gens qui auraient donné de l'argent pour la recherche, peut-être que ça se serait mieux passé.
Et puis ta maman, elle disait, tu avais besoin de transfusion, de sang, de plaquettes.
Oui.
Ça aussi, on peut donner, tous.
Oui, ça, on peut donner.
C'est facile.
Oui, ça, c'est pas très compliqué. Sauf pour les plaquettes, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire des tests spéciaux.
Tu en parles, je rappelle que tu n'as que 8 ans.
Oui.
Tu en parles. Est-ce que tu as conscience que tu en parles comme un très grand, comme un adulte?
Oui, j'en ai conscience.
Est-ce que c'est à cause, grâce, on ne sait pas, enfin, de cette maladie, ou t'as toujours été comme ça?
C'est plutôt grâce à cette maladie.
Pourquoi? Qu'est-ce que?
Parce qu'en fait, comme je restais à l'hôpital, je voyais plus mes copains. J'ai gagné en maturité.
C'est ça qui t'a manqué le plus, tes copains?
Oui, et ma sœur. Et mon chat aussi.
Tu retournes à l'école depuis la rentrée?
Oui, j'ai repris l'école à la rentrée. Maman s'étonnait que j'allais reprendre à la rentrée.
Mais t'avais envie?
Oui, très envie.
C'est quoi le message que t'as envie d'adresser? Tu nous as adressé à tous un message. Tu nous as dit qu'on pouvait aider, donner de l'argent, donner notre sang. Pour tous les enfants qui sont aujourd'hui hospitalisés, les leucémies, je crois, je lisais les chiffres, c'est 29% des cancers chez les moins de 15 ans aujourd'hui. Et ça reste la première cause de mortalité par maladie. Si tu voulais leur dire quelque chose à ces enfants, tu leur dirais quoi ?
Je leur dirais qu'il faut continuer à se battre, qu'ils vont réussir, qu'ils vont la vaincre, cette maladie.
Toi, tu y as toujours cru ?
Oui.
Toujours ? Jamais tu...
Non.
Il est incroyable, votre fils, Fleur.
Oui, il m'a donné une très belle leçon de vie. J'avoue que je suis juste impressionnée par son parcours. Et clairement, on me dit souvent, oh là là, c'est formidable, tu l'as porté. Mais non, en fait, c'est lui qui nous a porté.
Pascal ?
C'est un moment unique et je pense que les auditeurs auront évidemment été sensibles à ce que disait Charles et à votre émotion, madame, et à sa maturité et puis à son authenticité et à ce qu'il a dit. Donc merci, évidemment.
Et je vous rappelle l'adresse du site et de l'association Laurette Fugain pour donner don.laurettefugain.org. On va mettre tout ça, bien sûr, sur les réseaux sociaux.
Il y a école demain, Charles ?
Oui.
Bon, il y a la lettre au Père Noël ?
Oui.
Elle est écrite ?
Oui.
Et alors, tu demandes quoi ? Qu'est-ce que tu as demandé ?
J'ai demandé plein de choses.
Ah, mais alors, par exemple, elle est partie, la lettre ?
On ne l'a pas encore envoyé.
Ah.
Bon, c'est important de l'envoyer. Bah écoutez, vraiment,
on va le faire. Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci à Charles, merci à Fleur et merci à Amandine. 12h59. À tout de suite, les auditeurs.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL. Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
La justice ne se fait pas dans les médias, dit hier Emmanuel Macron. La justice, non, mais l'opinion publique, bien souvent. Nous sommes avec Nicolas. Bonjour Nicolas, vous êtes avocat ?
Oui, bonjour.